Il est mort, Jim, lu par l'auteur, épisode 65, chapitre 10. Lisangela n'était pas tout à fait novice, moi si. C'était simple, la position du lotus était la plus confortable, qui permettait le mieux que l'esprit ne soit pas gêné par le corps. L'objet en laiton servait à marquer les pauses, toutes les 20 minutes, elle permettrait de se dégourdir. Mais nous étions libres d'interrompre la méditation quand nous le voulions, se concentrer sur la respiration, permettait de chasser ses pensées, car la méditation était le contraire de son sens commun. Il s'agissait de faire le vide. On s'apercevrait qu'une foule de pensées nous assaille et combien elles nous tourmentent, alors qu'en soi, elles ne sont pas bien importantes. Qu'illusion ! La méditation permettait de tenter de s'approcher de sa vraie nature. Je me demandais comment je tiendrais en place, ne serait-ce que quelques minutes. Cela ne se passa pas si mal, malgré les allées et venues des participants. Le lama Samten ne fit son apparition qu'une heure et demie plus tard. Une tête s'encadra dans l'une des portes. Le lama arrive. Aussitôt, un homme grand d'environ 60 ans fit son entrée. Il avançait d'un pas hâté dans sa tunique tibétaine. Il parcourut sa barbe pleine de magnanimité parmi l'assistance qui commença à s'agiter de haut en bas et de bas en haut. Ses prières me saisirent de court. Le charme se rompait au fur et à mesure que les fidèles psalmodiaient en tibétain. Le reste de la matinée me parut de meilleure facture. Le lama discourut sur la compassion. Il était habile, répondait aux questions diverses, tout en recentrant sur le thème du jour. La traduction ne facilitait pas l'interaction cependant. Un homme à sa gauche s'en occupait, tandis qu'à sa droite, une femme, qu'on nous présenta ensuite comme sa secrétaire, lui versait de temps en temps de l'eau pour son thé. Je pris des notes que j'ordonnais le soir. Je sus après, en consultant Internet, que le lama, avant de prendre le nom de Lama Padma Samten, s'appelait Alfredo Avelin. Il avait été professeur de physique quantique dans une université du sud du Brésil. Il faudrait revenir à cette question de la physique quantique. Parmi les déclarations du lama Samten, je notais ce qui avait trait aux rêves. J'avais en tête ce que Kardec écrivait, qu'ils étaient la métaphore de la mort. Le moment où l'esprit s'endormait était propice à l'effacement de l'illusion de la vie. Le rêve était aussi faux que le monde que l'homme percevait. Notre réalité était onirique. La meilleure façon de ne pas être pris dans le piège de l'illusion était d'observer les choses comme elles étaient, y compris le processus et les afflictions de sa propre mort. Observer comment il mourait permettrait à l'homme de s'en éloigner. Le passage de la mort, de plus, était plus fluide si l'esprit était fort. Les cinq sens étaient alors moins en éveil et ils s'éteignaient vers le silence. Cette question de l'observation au plus près, avant et afin de prendre du recul, était également valable pour les choses en général. Leur solidité était illusoire et cela aidait à les purifier et à les remettre à leur vraie place. Être dans la vacuité permettait de mieux voir. Le Bouddha de notre ère, Siddhartha Gautama, qui naquit en fait quelques siècles avant celle-ci, avait laissé 84 000 enseignements, qui étaient tous des portes pour la rupture de l'illusion. Samten dit également que l'intelligence elle-même était une habileté de l'illusion. Mais ce qui m'intéressa le plus, ce qui fait écho en moi, à ma surprise, fut la question de la compassion. Faire l'aumône, prendre les autres en pitié, les éloigner nécessairement de nous, était une expression de notre ego. Il fallait les aider et on trouverait de la joie, comme Mère Teresa qui avait vécu au milieu des lépreux. À la question d'un participant qui s'étonnait, avec l'illusion de l'à-propos, qu'on puisse y parvenir avant des années de pratique, qui nous aurait déjà conduit à un autre monde ou à une autre existence bouddhistiquement parlant, le lama répondit qu'il fallait commencer par développer la capacité à se mettre à la place des autres. Il ajouta que l'attitude à développer était celle de l'équanimité. « Bizarrement, ça me parle, » dis-je à Lisangela, pendant la pause déjeuner. Nous étions assis dans une grande table, à côté d'un groupe de 5 personnes, assurément de la classe moyenne intellectuelle péruvienne, à laquelle nous appartenions en quelque sorte, nous aussi. Le déjeuner était syncrétique, comme d'ailleurs la salle de réunion d'où nous venions de sortir et où nous retournerions l'après-midi. Une statue de la Vierge regardait d'un mur perpendiculaire le portrait du Dalai Lama. Une croix était accrochée derrière le lama Padma Samten et qui se découvrait chaque fois qu'il se penchait pour saisir le thé que sa secrétaire empressée maintenait chaud. Le buffet du réfectoire était alimenté par des sœurs frêles et souriantes. Chacun des bouddhistes ou apprentis faisait leur part dans la paix des religions en rangeant soigneusement sur le chariot déposé à cet effet. À la fin de leur repas, les assiettes d'un côté, les couverts de l'autre et les déchets dans les récipients derrière lesquels souriaient les officiantes catholiques. Celles-ci cuisinaient bien de surcroît, des mets simples, mais goûteux.